Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je suis dans un club de GPU. Et je vais peut-être être le vilain petit canard cet après-midi. Mais je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. Alors pour me présenter, parce que je crois que c'est important que vous compreniez que je ne suis pas quelqu'un qui est hors sol. Je suis donc neurologue, je suis marié, j'ai 4 enfants, je peux se marier, j'ai 6 petits-enfants, un quart.
Un quart.
Je suis donc spécialiste en neurologie, j'ai fait mes études à Paris, à Saint-Antoine, à Sainte-Anne, à la Salpêtrière des années. Conseiller de 3 laboratoires pharmaceutiques, j'ai travaillé 7 ans dans l'industrie pharmaceutique, j'ai été journaliste médical, j'ai été infirmière, j'ai été brancardier, j'ai lavé par terre dans les hôpitaux, et j'ai fait plein de choses. Donc je suis quelqu'un qui est dans la vie. Donc en tant que neurologue, j'ai un cabinet libéral de neurologie où je vais dire c'est avec un collègue, et nous avons un centre de la mémoire, labellisé par l'ARS, donc je suis spécialisé dans la sclérose en plaques, dans la maladie neurodégénérative, et donc tout ce qui touche à la mémoire. Je travaille aussi à l'hôpital Rothschild, et à l'hôpital Stel à Rueil-Malmaison, et j'ai été aussi neurologue dans l'hôpital psychiatrique à Plaisir pendant des années. Voilà, pourquoi je vous dis ça, voilà. Comprenez bien, je ne suis pas hors sol. Parce que maintenant, je ne vais plus vous parler de tout ça, je vais vous décevoir énormément. Je ne vous parlerai plus de neurologie. Mon collègue a parlé sur des connaissances neurologiques de l'hypno, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, je vais vous parler de l'âme humaine, telle que je peux la comprendre, et de ma vision, de ma compréhension de l'hypnose, telle que je peux l'approcher sans la pratiquer du tout et n'y connaissant a priori rien. Mais pourquoi si je vous dis ça? Parce que je m'intéresse à la médecine globale, corps, âme et esprit de l'individu. Depuis 1999, je travaille en Afrique, notamment au Burkina, avec une association humanitaire que j'ai créée, qui s'appelle Aide ton prochain, qui vise à faire des cliniques de médecine globale, corps, âme, esprit, avec des chrétiens locaux, des soignants locaux chrétiens, pour prendre en charge la pathologie dans son ensemble. Et j'ai trouvé qu'en Afrique, il y avait une ouverture d'esprit beaucoup plus intéressante, qui rejoint la pensée biblique. Dans l'Évangile, on voit les gens qui amenaient à Jésus leurs familiers, leurs enfants, leurs parents, qui disaient « Il est tourmenté par un esprit ». Et nulle part, on ne voit Jésus qui dit « Mais non, c'est pas vrai, c'est la maladie de toute muche. Vous en aurez la connaissance en 1954 par le docteur Machin ». Non. Il dit « Oui, c'est vrai ». Donc les gens simples avaient une connaissance intuitive, qu'il y avait des choses qui étaient d'ordre spirituel. Et qu'il y avait, c'était pas un désordre chimique du cerveau, c'était un esprit qui perturbait les gens. Chose qui existe toujours en France. On faisait allusion tout à l'heure aux aliénés de la Salpêtrière, qui étaient enchaînés. Et bien, moi, quand j'ai fait mes études de neurologie, j'ai fait un an de psychiatrie, notamment à l'hôpital Perret-Vaucluse, de Paris, où j'étais enfermé dans une pièce, enfin dans une pièce, un pavillon entier, où les grillages étaient à l'intérieur, les patients étaient entièrement nus, la seule personne habillée, c'était l'infirmier, et moi. Il y avait des matelas et des capitonnages partout, parce que les gens se tapaient sur partout. Et les gens avaient, qui étaient là, taxés de psychotiques, avaient des faciès, qui évoquait tout à fait ce qu'on trouve sur les peintures du XVIe siècle, du XVIIe siècle, dans les musées. On voit ces gens qui grimacent sous l'emprise de démons. Donc à l'époque, j'avais été choqué, mais je ne comprenais plus. J'avais fait une relation avec l'Évangile, mais je n'arrivais pas à comprendre vraiment les choses, jusqu'à ce qu'en Afrique, au Burkina, j'aille dans un village qui s'appelle le village des fous, où je trouve 21 ou 22 personnes enchaînées avec des chaînes à des arbres. Et là, bien sûr, je me rappelle tout ce que nous savons, et que nous prenons pour de l'obscurantisme duquel les lumières nous auraient libérés, avec quelques médicaments antipsychotiques, qui ne résolvent pas les problèmes, puisque les gens ne sont pas guéris, ils sont juste contrôlés dans la capacité d'exprimer leur délire. Et là, je m'intéresse à pourquoi ce village, d'où vient ce village. Ce village des fous vient du fait qu'un pasteur a commencé à croire dans l'évangile, et à croire que des gens qu'on lui amenait étaient tourmentés par des esprits impurs. Et il priait pour ces gens-là, les gens étaient délivrés, ils étaient guéris. Du coup, on lui a amené d'autres possédés, qu'on appelle fous là-bas en Afrique, et il les enchaînait, comme ces gens étaient dangereux, pour eux-mêmes ou pour l'environnement, on les enchaînait jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Donc, je me suis fait expliquer toutes ces histoires, avec traducteur, parce que c'est compliqué, c'est dans un village reculé. Donc le pasteur a été viré de son système ecclésial, parce qu'il n'était pas... Sa congrégation, voilà, merci. Il n'était pas dans ce qu'on lui demandait, on lui disait « prêche l'évangile », mais surtout, il ne délivre pas les gens, quoi. Et aujourd'hui, il continue à faire son travail. Nous avons construit là-bas un dispensaire, une maternité. On a achevé la maternité il y a 2 mois, on vient d'équiper. Donc avec la situation, être ton prochain. Et les gens restent enchaînés entre 2 mois à 5 ans. Leur famille s'occupe d'eux. Ils viennent leur apporter à manger, et la famille reste là, et le village n'arrête pas de grossir, parce que comme le patient vient avec sa famille, il s'installe jusqu'à ce qu'il soit délivré. Quand il est délivré, souvent, il reste là. Et il estime qu'il a à peu près 80% de résultats. On est en Afrique, les gens voyagent, c'est pas facile de savoir exactement ce qui se passe dans la tête des gens. Bon, c'est peut-être pas 80%, c'est peut-être 60%. Mais déjà, 60% de psychotiques guéris, montrez-moi ça à Paris, je vous dirai bravo. Donc, il y a une réalité que j'ai découverte, qui existe dans la parole de Dieu, et j'ai découvert qu'elle était bien réelle dans notre génération. Dans notre génération. Je vous parle de notre génération. Et donc, j'ai essayé de vivre ça à Paris, avec plus ou moins de bonheur. Pour être franc. Avec des résultats, et aussi avec... des échecs, et puis aussi avec des frustrations, beaucoup de frustrations. Voilà pour l'introduction. Alors, d'où vient l'hypnose? Moi, oui, je ne vous ai pas dit une chose importante, je suis chercheur. En 1982, je me suis inscrit à l'URSSAF comme chercheur. Chercheur en quoi? À l'époque, je ne savais pas trop quoi je cherchais, mais maintenant je sais. Je suis chercheur en simplification de la pensée. Parce que c'est devenu tellement compliqué. Vous savez, Dieu n'est pas très compliqué. Mais alors l'homme, qu'est-ce qui peut être compliqué? Le cœur de l'homme est tortueux, mais tortueux. Et on complique tout. Donc, j'essaye de revenir à des choses simples. Vous me direz que je suis primaire. J'accepte. Je suis primaire. Je préfère être primaire avec des idées simples qui fonctionnent que d'être secondaire ou tertiaire et d'avoir le cerveau complètement confus. Donc d'où vient l'hypnose? L'hypnose d'abord, c'est le dieu Hypnos. Hein? C'est le dieu de la mythologie grecque, du sommeil, dont le frère jumeau est Thanatos, la mort. C'est pas anodin. Ensuite, dans l'histoire, l'hypnose est développé dans la sorcellerie. L'origine profonde de l'hypnose, c'est la sorcellerie. Après, on dira que c'est chez les chamanistes, chez les bouddhistes, bon, je ne rentre pas là-dedans, ce n'est pas important. Mais l'important, c'est juste d'avoir une petite idée d'où ça vient. Voilà. Moi, je pense que ça vient de bien plus loin. Et tout à l'heure, je ne sais plus quel des deux, il y a fait une allusion, ça vient de très loin. Effectivement, parce qu'on en parle dans la parole de Dieu. Et je vous démontrerai où. Donc, pour moi, l'hypnose, c'est une religion. Pas une technique, c'est une religion. À la base, c'est une religion traditionnelle, autoritaire, directive, qui était imposée de l'extérieur. Maintenant, on nous la présente sous une religion light. On nous dit que c'est ericksonien, que c'est permissif, que c'est choisi et que la réponse vient de l'intérieur. Pour qu'il y ait hypnose, le mot a été prononcé tout à l'heure, il faut qu'il y ait transe. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, transe. Est-ce que vous avez déjà assisté à une séance de vaudou? Moi, oui. Est-ce que vous avez déjà vu des gens ramper par terre comme des serpents? Moi, oui. Je vous assure, c'est pas rien de voir les gens qui sont possédés. Et il y a la possession des gens qui rampent par terre, et puis il y a le vaudou, où on voit que les gens sont en transe. Ils sont là, mais ils sont plus là, quoi. J'ai vu des fétus de paille se lever de terre et se mettre à tourner sur les tables pour des réunions médicales. De neurologie, on nous présentait le vaudou comme un phénomène culturel. Tout ça, c'est vrai, ça existe. Je parle de ça il y a 10 ans, pas très vieux. Donc, ces mots de transe qu'on reprend aujourd'hui dans l'hypnose light, c'est bien les mêmes mots dont on parle. Ensuite, on nous dit qu'il faut 3 étapes qui sont initié par l'induction, une étape d'absorption, une étape de dissociation, où le sujet est acteur et observateur de son expérience, et une étape de suggestibilité, où la personne est sensible à l'hypnotiseur et donc accessible aux pensées de l'environnement. Dans l'hypnose, il y a un état de conscience particulier. Alors on est entre la veille et le sommeil, on l'a dit tout à l'heure. C'est un état de conscience modifié. On n'est pas tout à fait là, tout en étant vraiment là. En disant qu'il y a une perte de nos perceptions habituelles. Bon. À la fois, les gens sont hyper concentrés, et à la fois, ils sont très détendus, comme on l'a dit tout à l'heure. Quelle est la profession de foi de l'hypnose? C'est, je tiens de gens qui font de l'hypnose, hein, je les interroge. Le conscient peut demander à l'inconscient. Donc on s'interroge, notre conscient interroge notre inconscient. L'inconscient sait mieux que le conscient. Notre inconscient connaît mieux les choses que notre conscient. Et notre inconscient est un bon réservoir qui possède en lui-même les ressources nécessaires à l'individu. Donc notre inconscient, c'est la source de la guérison et de la vie que j'aurai naturellement en moi. Je dis sous une autre forme de ce qui a été dit tout à l'heure. Pour bien poser les choses à la base. La méthode, on n'a pas parlé beaucoup de la méthode tout à l'heure, mais la méthode, c'est donc cette personne qui est assise, les yeux fermés, et qui entend une voix qui lui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais assisté à des séances d'hypnose, mais c'est quand même la voix qui exerce une suggestion pour permettre l'induction, enfin l'induction qui permet la suggestion par la voix. Et chacun a un niveau de sensibilité particulière à cette voie qu'on appelle l'hypnosabilité, c'est-à-dire la capacité d'abandonner sa volonté à la volonté de l'autre, pouvoir en se focalisant soit sur un objet, soit sur une image, soit sur une sensation. L'hypnose est très proche de la méditation de la pleine conscience, qui est enseignée maintenant en faculté, notamment il est cher à Saint-Anne à Paris. Et la méditation de la pleine conscience.
Pleine conscience.
Oui, la pleine conscience.
Pleine conscience. Mindfulness.
Qui vient du bouddhisme, tout simplement. Les conditions d'hypnose, il faut donc être d'accord, donner sa volonté, avoir confiance dans la personne avec qui vous êtes. Il faut laisser faire les choses. Il ne faut plus gérer le temps. Donc, la profession de foi de l'hypnose aboutit à cela. L'hypnose prétend changer les gens, dénouer les nœuds, utiliser des canaux, je n'ai pas compris tellement ce que c'était que ces canaux, en provoquant des sensations, des images, des visions. Voilà ce que je peux connaître de l'hypnose de façon externe. Alors maintenant, quel est le point de vue en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu? En quoi ça m'interroge? Est-ce que nous sommes d'abord d'accord pour dire que nous sommes une création divine? Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que nous sommes un corps, un âme, une âme et un esprit? Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que l'âme est immatérielle? Ce n'est pas quelque chose qui est un processus chimique gravé dans notre cerveau. L'âme n'est pas chimique. Je dis ça parce qu'actuellement, en médecine, on parle de l'âme chimique, de l'âme immatérielle, chimique. Mais si on n'est pas d'accord là-dessus, déjà, tout ce que je vais dire après n'aura plus de sens. Donc, si je prenais un exemple, l'ordinateur, c'est le corps, le logiciel, c'est l'âme, et le courant électrique, c'est l'esprit. Il faut que les trois fonctionnent ensemble pour qu'on puisse se servir correctement de l'outil. Donc nous savons tous ce que c'est le corps. L'esprit, c'est même une donnée qui est assez contestée même dans les milieux chrétiens. Mais bon, la Bible dit clairement que nous avons un esprit régénéré, que nous sommes nés dans l'eau, et que Dieu est esprit. Nous sommes à son image. Et l'âme. La création ne nous parle pas de la création de l'âme. Lorsque Dieu souffle sur le corps fait de boue d'Adam, Adam devient un être vivant. On ne sait pas. La Bible nous en dit pas plus, on ne peut pas inventer des choses. L'âme est là, mais d'où elle vient, je ne sais pas. L'âme, notre âme, c'est la partie de nous qui est le moi. C'est la partie de nous qui sera sauvée ou qui sera perdue. C'est la partie de nous qui vit éternellement. Notre corps n'est pas un corps éternel. Nous aurons un corps de résurrection, mais notre corps n'est pas un corps éternel. Et notre esprit retournera à Dieu comme Jésus a rendu l'esprit, qui est retourné à son Père. Donc notre âme, c'est notre identité. C'est notre nous-mêmes. D'accord ? Donc pour la première fois, je vais présenter des réflexions sur ce sujet. Alors j'ai fait un peu de bruit tout rouge. Ah, d'accord, c'est ça le problème. Alors, attends, il faut que je reparte au départ, ça sera mieux. Voilà. Alors, c'est un essai. Je ne prétends pas que je vais dire l'exacte vérité. Ce qui est important, c'est qu'on puisse en parler. Donc, c'est une matrice pour pouvoir discuter. On ne confierait pas son corps à un chirurgien qui n'aurait pas étudié l'anatomie du corps. Ou alors, on serait fou. Donc, on ne confie pas son âme sans avoir une idée de l'anatomie de l'âme. Et ça, ce n'est pas enseigné en faculté de médecine. Ça nécessite une recherche personnelle sur ce que nous sommes. L'âme humaine. c'est une pâte molle. Il y a saint Augustin qui a dit qu'à force de tout voir, on finit par tout supporter, et à force de tout supporter, on finit par tout tolérer, et à force de tout tolérer, on finit par tout accepter, et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. On n'ignore pas qu'on n'est pas dans, qu'on est dans une période de l'histoire où tout devient confus, où finalement les choses qui étaient bien établies par Dieu, pour faire un couple, il fallait un homme et une femme, par exemple. Tout ça, c'est fou, c'est battu en brèche. Ça devient confus. Alors au départ, on lutte contre ces choses, puis finalement, on finit par les accepter, les tolérer, puis finalement les intégrer. On va dire, ouais, finalement, c'est pas plus mal qu'autre chose, quoi. Vous voyez, c'est cette dérive-là qui m'inquiète. C'est que, je dis pas que ceux qui font de l'hypnose sont des gens mauvais, non. Mais je dis que quand on met le pied dans un engrenage, où s'arrête-t-on ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas des stops ? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans la Bible où c'est dit « attention ». Moi, quand j'étais enfant, on me disait « il ne faut pas jouer avec le feu ». Ben, apparemment, c'est plus le cas aujourd'hui. On a le droit de jouer avec le feu, et c'est dangereux de jouer avec le feu. Alors, moi, je vous dirais que j'essaye de vous donner ma pensée. Simple. Et c'est pas scientifique, hein, franchement. Hein. Mais pas pour ça, je dis, je parle plus de neurologie, là. C'est très clair. Ok ? Alors, après. Donc, je pense que là, petit à petit, on va peut-être dériver, mais là, pour l'instant, on va être d'accord. Voilà, l'âme humaine, il y a un inconscient, il y a un conscient, il y a une volonté, et il y a un esprit. Je crois que c'est la base. Je pense que si on n'est pas d'accord là-dessus, déjà, on ne pourra pas avancer, mais je pense que là-dessus, on peut quand même être d'accord. Hein? Jésus dit à la personne qui s'adresse à, qui vient vers lui, c'est toujours « qu'est-ce que tu veux ?» Même s'il est aveugle de naissance, « qu'est-ce que tu veux ?» Donc la volonté, c'est quelque chose de fondamental. Le conscient, ben, nous avons tous notion que nous sommes conscients, c'est-à-dire « je pense, donc je suis hein? ». Et puis l'inconscient, nous a été bien expliqué par Freud, mais nous sommes tous conscients que nous avons des rêves, que nous avons des choses cachées en nous et qui vont s'exprimer de temps en temps. J'ai mis l'esprit au milieu de l'âme parce que je crois que l'esprit, c'est la partie la plus intérieure de nous-mêmes. Mais, j'en sais rien. Une représentation. Pour essayer de fixer les idées. Alors, est-ce que l'âme a une forme rectangulaire ? Non, je ne crois pas. Je crois que l'âme a la forme de corps. Pourquoi je pense ça ? Parce que les récits bibliques nous laissent penser ça. Au ciel, les gens ont l'air de se reconnaître. Ils peuvent voir à qui ils parlent. Donc, ils ont une forme qui ressemble à quelque chose de connu. Ou alors, ils ont une connaissance extrêmement, je ne sais pas, surnaturelle des choses. Mais enfin, bref, ils savent à qui ils parlent. Abraham, là-haut, il sait bien Abraham, donc il doit y avoir quelque chose qui ressemble d'une manière ou d'une autre à notre corps. Alors, nous sommes dans un environnement. Nous ne sommes pas des électrons libres, nous sommes dans un environnement, et dans cet environnement, ben, nous avons Dieu et nous avons le diable. Jusqu'ici, ça va ? Pas des révélations que je donne, hein. C'est juste pour bien comprendre où est-ce qu'on se situe. Et nous communiquons avec l'un par la et l'autre par la volonté. Je décide de faire le bien ou je décide de faire le mal. Mais dans la création, Dieu communiquait directement avec Adam dans son esprit. Adam qui est un être spirituel, au même titre que Dieu, et donc avait une connaissance intuitive de Dieu. J'avance. La mémoire, c'est quelque chose que nous partageons entre notre conscient et notre inconscient. À tout moment, nous ne sommes pas capables de nous rappeler tous les événements de notre existence. Mais à certains moments, certains événements vont nous revenir en mémoire, donc ils ont bien été stockés quelque part, dans notre inconscient, et on revient dans notre conscience. Mais les événements de notre inconscient peuvent rester bloqués dans notre inconscient et ils peuvent nous perturber. Pardon. La connaissance du bien et du mal, je ne crois pas qu'elle était dans la consommation d'un fruit. Je crois que la connaissance du bien et du mal, quelque chose qui est enfoui dans l'être, dans son inconscient, et qu'il agissait selon le bien. Parce que tout son être était tendu vers le bien. Je parle d'Adam avant la chute. Pourquoi je dis ça? Je vais vous l'expliquer ensuite. Donc à la création, Dieu nous a fait comme ça. Dieu nous a fait avec un inconscient, inconscient. Il nous a fait dans un environnement. Dieu est le diable. Tout notre être était un être de lumière. Il n'y avait pas de ténèbres en nous. Notre inconscient n'était pas ténébreux. Il existait, mais il n'était pas ténébreux. Il était toujours dans la lumière. Et il y a des organes dans notre âme. Il y a nos affects, nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos pulsions naturelles qui existaient en Adam. Il y a notre conscience de nous-mêmes. Adam savait qu'il était Adam. Adam savait qu'il était fils de Dieu. La conscience de Dieu est une fonction de l'esprit, mais la conscience de nous-mêmes est une fonction de l'âme. Et je pense, donc je suis, donc mes pensées sont reliées à ma conscience. L'intelligence, bien sûr, la mémoire dont j'ai parlé, et tout notre être de lumière, et la volonté, bien sûr, c'est celle qui nous fait avancer. Donc, c'est une modélisation de ce que est à peu près notre âme à la création. Maintenant, on peut l'améliorer, on peut trouver d'autres choses. Jésus, c'est le nouvel Adam. Jésus, il a, dans le sein de Marie, développé un corps et une âme. Je ne sais pas si Jésus avait une âme au ciel. Enfin, je le suppose, mais je n'en sais rien. Parce que est-ce que Dieu a une âme? On dit que Dieu est esprit, mais on ne dit pas que Dieu a une âme. Pourtant, il a des sentiments. Pourtant, il a une mémoire. Pourtant, il a une volonté, etc. Donc, on peut le supposer. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus sur Terre, oui, il avait une âme. Ça, c'est sûr. Et que cette âme, elle était lumière. Il n'y avait pas de ténèbres en Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché en lui. Son inconscient est aussi lumineux que son conscient. Et la connaissance du bien et du mal était inclue en lui, puisque nous pouvons comprendre qu'il s'est développé comme un enfant. Il a appris des choses. Il n'est pas, il y a 6 mois, il n'a pas dit « je suis le fils de Dieu », il ne connaissait pas toute la Bible par cœur, etc. C'est des choses qui se sont révélées en lui petit à petit, qui étaient inscrites en lui d'une certaine façon, profonde. Et le reste correspond à ce qu'était Adam. Alors, Jésus pourra dire « Satan n'a rien en moi ». Ça veut dire que toi, moi, nous avons une part de Satan en nous. Une part de mal qui habite en nous. Une part de ténèbres qui est en nous. Je ne dis pas que Satan nous habite. Mais je dis qu'il a un petit endroit en nous où il a un accès. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Son inconscient était aussi lumineux que son conscient. Ok. Alors, d'où vient l'hypnose? L'hypnose, la première séance d'hypnose a été faite par Satan.
Bon, je crois qu'il y aura du débat.
La première séance d'hypnose a été faite par Satan. Pourquoi? Satan,
la séduction.
Il est le séducteur, il est le malin, et dans le mot malin, il y a bien le mot mal, mais il y a aussi le mot malin en tant que tel, hein, c'est-à-dire le renard, hein, celui qui sait sans s'y prendre. Dieu a déclaré à Adam, le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. C'est la parole de Dieu. Et Satan va déclarer, pas du tout,
vous serez comme des dieux. Donc, il y a deux pensées. Il y a la pensée, il y a deux paroles. Il y a la parole de Dieu et la parole du diable. N'est-ce pas ? On est d'accord là-dessus ? Bon. Et cette femme, elle a deux paroles. Elle peut croire l'une ou croire l'autre. La Bible ne dit pas qu'elle a cru l'une ou l'autre. La Bible nous dit que parce qu'elle a accepté d'écouter Satan, de rentrer dans un dialogue avec lui, elle a une transe. Et dans cette transe, elle voit que l'arbre est bon à manger.
C'est entre crochets, vous pouvez mettre, pas entre parenthèses.
On ne lit pas ça qu'elle est en transe.
Non, non, mais je suis en train d'expliquer ce que l'hypnose appelle une transe. Moi, je peux appeler aussi ça une transe. N'est-ce pas ?
C'est une interprétation.
Puisqu'elle a... Oui, c'est une interprétation. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je suis en train de vous apporter un éclairage. Vous en faites ce que vous voudrez. Mais c'est l'éclairage qui me fait vivre. Elle voit que l'arbre est bon à manger. Elle n'a pas encore mangé. Elle voit qu'il est bon à manger. Mais où est-ce qu'elle a tiré cette idée-là ? Elle n'est pas là. C'est la suggestion. Le diable est en train de lui refiler le bébé. Elle voit que l'arbre est agréable à la vue. Je ne sais pas profondément qu'est-ce que ça voulait dire pour elle. Mais il y a une séduction visuelle. Vous savez que la séduction des images, très importante. On essaye maintenant énormément de nous envoyer des images pour tout. D'ailleurs, on vous montre des images de ce que fait l'hypnose. Ce n'est pas ce que fait l'hypnose. C'est des images de ce que fait la pensée lorsqu'on pense ou ce qu'on fait dans certains états de notre cerveau. Hein, quand on est dans une rêverie, entre le moment de s'endormir, on a exactement les mêmes images. Donc c'est la séduction des images. Et elle voit que cette arbre est désirable pour le discernement. Elle est complètement dans son monde. Elle n'est pas dans la réalité, là. Elle est complètement dans l'hypnose. Elle croit que cet arbre va lui ouvrir l'intelligence. Et alors là, boum, badaboum, tout se casse la figure. Ça devient confus. Effectivement, je suis sûr qu'ici, beaucoup d'entre vous sont confus. Ça devient très confus. La relation avec Dieu est rompue. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'ils sont morts au sens physique ? Non. Ils sont morts au sens de la relation avec Dieu. La relation d'esprit à esprit avec Dieu a été coupée. Et seule persistait la relation via la volonté qu'il pouvait activer ou ne pas activer. Et on s'aperçoit qu'elle n'est finalement activée que dans Genèse 4, 26, où il dit, c'est à cette époque-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors là, c'est le chamboulement complet. Parce que à la conscience, la bonne conscience, vient maintenant la mauvaise conscience. Les affects produisent des pensées, produisent des blessures, produisent des accusations contre l'homme et la femme. L'intelligence, la connaissance, soi-disant qu'ils allaient mieux connaître, ben on va voir qu'ils ne vont pas connaître grand-chose, à part beaucoup de problèmes. Les ténèbres s'installent dans l'inconscient. Le péché rentre qui s'établit chez l'individu. Et donc la connaissance est complètement perturbée dans notre inconscient comme dans notre conscient. La mémoire reste une fonction qui passe des deux côtés, mais vous voyez que l'esprit est réduit à sa portion congrue. La plupart des gens qui sont des athées n'ont aucune conscience de Dieu. Il faut qu'ils aillent dans le plus profond de même pour trouver une petite lumière. Alors que c'est une fonction essentielle de l'esprit. Avoir conscience que Dieu existe, rien qu'en regardant une belle fleur, s'épanouir, avoir conscience que Dieu existe. Donc la chute va provoquer une catastrophe dans notre âme. Alors, la chute, c'est les ténèbres dans l'âme. La connaissance du bien et du mal qu'ils imaginaient trouver, c'est le chaos, la confusion à l'intérieur de nous. La meilleure preuve,
Ils étaient nus. Dieu avait déclaré que c'était bon qu'ils soient nus. Ils n'avaient pas mauvaise conscience d'être nus. Et maintenant, ils en ont mauvaise conscience. C'est une honte pour eux d'être nus. Ils vont se cacher. Ils vont se faire des... Ils vont se coudre des feuilles de figuier. La confiance dans le Père, Dieu créateur, bon. Ce Père qui donne la vie, ce Père qui vient dans le jardin à 5h du soir pour parler avec son enfant. Maintenant, ils en ont peur, ils vont se cacher, ils ont peur de Dieu. Rien quand on entend sa voix, ils ont peur de Dieu. Et l'harmonie du couple est brisée. L'homme accuse la femme, la femme accuse le serpent, enfin bon, ça tourne en boucle. Donc la confusion s'installe à la chute. Conclusion de cette première partie. Si Ève n'avait pas écouté la voix du diable, elle n'en serait pas là. Si elle avait cru la voix de Dieu, point à la ligne, si elle avait dit Satan, ciao, bye bye, je touche pas à ça, je touche pas au feu, je joue pas avec le feu, je commence pas à me toucher à quelque chose, je ne connais pas les conséquences parce que moi je suis un humain limité, alors que le diable est très intelligent et il sait très bien manipuler l'humanité. Je touche pas à ça parce que je ne sais pas où ça nous en fait. Qu'est-ce qui va se passer avec le salut? Avec le salut par la croix de Christ, nous rétablissons un lien avec notre Père. L'Esprit de Christ vient remplacer notre esprit déchu. Ce n'est pas une régénération de notre esprit, c'est un remplacement, une greffe. Nous naissons d'en haut. Il ne nous a pas dit que nous sommes revitalisés d'en haut. Non, nous naissons. Il y a une nouvelle naissance. On reçoit l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous. Cet Esprit de Christ nous permet de rétablir une relation d'esprit à esprit avec notre Dieu. Nos capacités d'entendre la voix de Dieu, notre capacité de faire confiance à Dieu est restaurée. Nous avons conscience qu'il est notre Père, qu'il est la source de notre vie maintenant. En plus, il ne nous laisse pas orphelins, il nous donne le Saint-Esprit qui vient habiter en nous pour ceux qui le demandent. Donc, on est armé maintenant des moyens de la guérison de notre chaos, de la guérison de notre âme. La culpabilité, les blessures, les péchés, la mémoire, la vieille nature sont encore là dans les ténèbres. Notre conscience devient lumière. Je vis maintenant. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est pas l'aboutissement de l'histoire. Paul ne dit pas ça après avoir vécu 30 ans de christianisme et dire « ça y est, j'y suis arrivé, maintenant c'est Christ qui vit en moi ». Non, c'est le début de l'histoire. Il a conscience que Christ est venu habiter en lui. Au moment où il s'est converti. Et que ce Christ en lui, qui grandit en lui, qui s'épanouit en lui, l'amène de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, de victoire en victoire. Donc, à notre conversion, nous avons la lumière qui rentrait dans notre conscient et nous avons les ténèbres qui sont restées dans notre inconscient. Et il ne s'agit pas d'en rester là. Le salut, ce n'est pas un instant puis c'est fini. Le salut, c'est un processus progressif dans lequel existe également la guérison. La guérison intérieure. La guérison physique éventuellement. On rentre dans un processus de régénération. On naît de nouveau à une vie nouvelle pour des expériences nouvelles. Et alors, ce que la Bible nous explique comme étant la prière, cette expérience
où je me mets devant Dieu en lui demandant de me sonder, mais je le regarde lui. En fait, aujourd'hui, on redécouvre tout ça sous une forme soi-disant scientifique. Il n'y a rien de scientifique du tout, puisque l'hypnose est une religion, je vous le dis. Mais en fait, c'est les mêmes processus. Bien sûr qu'il y a un canal de prière, d'ouverture à Dieu, qui est aussi le même canal d'ouverture aux mauvais esprits. Donc c'est à nous de décider par notre volonté. Est-ce que je vais vers Dieu le Père, tous mes problèmes? Est-ce que Jésus-Christ est suffisant pour tous mes problèmes? Ou est-ce que j'ai besoin de trouver d'autres méthodes? Est-ce que je crois dans l'Écriture? Ou est-ce que je ne crois pas dans l'Écriture? C'est ça, là. Je vous parle là comme un prédicateur, non plus comme un médecin, mais en même temps, je suis médecin de l'âme. Parce que je comprends combien la souffrance est importante, combien de gens souffrent aujourd'hui, plus qu'hier. Il y a une souffrance énorme, y compris et surtout chez les chrétiens. Ils ne savent pas comment s'en sortir, ils cherchent toutes les solutions, et je les comprends, parce que c'est... Nous voulons tous guérir. Moi, je m'occupe de maladies graves. Je suis spécialisé en sclérose en plaques, je vous l'ai dit. Les gens, ils veulent guérir, c'est normal. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de les guérir. Au mieux, je les soigne. Et s'ils guérissent, je dirais comme Ambroise Paré, je les soignais. Dieu l'a guéri. Parce que toute la gloire est pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce processus de reconquête de nos ténèbres? Parce que nous avons tous des ténèbres. Eh bien, il se passe que dans la prière, le Saint-Esprit va nous révéler des choses sur nous-mêmes. Le salut nous restaure à l'image du Christ, le deuxième Adam, avec en plus l'héritage du premier Adam, qui était un pécheur. La lumière est revenue, mais n'a pas chassé complètement les ténèbres, je viens de vous le dire. Le salut a un début précis, mais il est un processus progressif. Je l'ai déjà dit, le rêve de notre vie, c'est la reconquête de notre âme, c'est notre Canaan. Il faut conquérir Canaan. Notre Canaan à nous. Alors, comment se fait cette reconquête? Le Saint-Esprit, dans la prière, nous présente, dans notre inconscient, il révèle, tout d'un coup, il fait remonter quelque chose, il fait remonter une blessure, il fait remonter un non-pardon, il fait remonter des choses à notre conscient. Et là, on les a devant les yeux, et on a deux choix. Soit j'accepte le traitement du Saint-Esprit, c'est-à-dire que je présente à Christ et à Dieu le Père mon problème, et je lui demande de le régler. Par le sang de Christ, la chose a déjà été accordée. Soit je refuse et je refoule. Et je continue avec mes problèmes. Ça, c'est notre vie de tous les jours. Et petit à petit, notre inconscient se lave. Et nous progressons. Qu'est-ce que fait l'hypnose? L'hypnose, elle prétend faire ce travail, mais pas à l'heure du Saint-Esprit, pas à l'heure de Dieu. Donc, qui a créé l'inconscient? Dieu. Pourquoi? Je ne peux pas en comprendre toutes les raisons. Une des raisons que je vois, c'est pour y ranger les traumatismes insupportables à notre vie. Il y a des traumatismes que les gens vivent, on a parlé de viol tout à l'heure, un énorme traumatisme, qui sont parfois rangés dans l'inconscient au point que les gens ne s'en souviennent même plus. Et que le Saint-Esprit va remettre en lumière à un moment donné, parce qu'il sait que la personne maintenant elle est capable de le traiter. Et donc, le fait que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse va permettre à ce que la personne guérisse vraiment, alors que si c'est nous qui voulons absolument aider les gens à guérir, ou les gens qui veulent absolument aider à guérir sans attendre l'heure de Dieu, et bien on force les choses et on peut, ça peut aboutir à des bonnes solutions, mais on force les choses de toute façon. À partir du moment où on est convaincu que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, sont appelés selon son dessein, on doit pouvoir accepter qu'il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Il y a un temps de Dieu pour guérir. C'est pas en claquant des doigts de dire « je veux guérir aujourd'hui ». Je dois me soumettre à Dieu et attendre, en collaborant avec lui, que ce temps vienne, ce temps de guérison vienne, parce que j'en ai besoin. C'est normal de vouloir guérir encore une fois. Moi, je veux guérir. Mais je veux guérir dans la volonté de Dieu, dans la soumission à Dieu. Non pas, Jésus dira, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Ça doit être notre prière. On est des chrétiens. Je ne sais même pas si ça veut, ce mot-là veut dire encore quelque chose. Enfin, disons qu'on est des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles de Dieu. On est d'en haut. Au moins, ça a du sens. Donc, ça devrait générer en nous des comportements différents des comportements du monde. On ne devrait pas trouver les solutions du monde. Je comprends que les gens cherchent l'hypnose comme solution à leurs problèmes lorsqu'ils ne sont pas chrétiens. Mais nous, est-ce que c'est ça la réponse qu'on a à leur donner ? Est-ce que Christ n'est pas suffisant pour résoudre les choses à son heure ? Moi, je vous interroge.
Donc, pour moi, le processus de la reconquête de nos ténèbres, de notre inconscient, de notre Canaan, ça passe par une intervention du Saint-Esprit. Soit lors de la prédication, qui nous interroge, qui nous interpelle, soit lors de la prière, ou soit lors d'une situation d'hypnose. J'ai vu des gens, lors d'une période de prière, sombrer dans un état qu'on pourrait appeler d'hypnose. Ils sont avec Dieu, Dieu leur parle. Je sens intervention humaine. Il se passe des choses.
Ils sont en transe.
Peut-être.
Si on veut employer ce mot-là, moi je n'emploierai pas ce mot-là pour le Saint-Esprit, parce que j'ai plus de respect pour le Saint-Esprit que ça. Mais
moi aussi j'ai beaucoup de respect pour le Saint-Esprit.
Bon, alors j'emploierai pas ce mot-là.
Mais il y a des phénomènes qui peuvent être difficiles à analyser, qui peuvent avoir plusieurs interprétations.
Voilà, d'accord, mais laissons le bénéfice du doute à ces personnes qui vivent quelque chose dans lequel personne n'est intervenu. J'insiste là-dessus. Hein. Il ne s'agit pas de. On a poussé les gens pour qu'ils tombent par terre, je ne sais pas quoi, je ne parle pas de ça. Hein.
Je parle d'états où les gens ont l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'ils vivent quelque chose avec Dieu.
Les états modifiés de conscience, vous savez, ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai vécu un état modifié de conscience deux fois. Ben, c'est pas si simple que ça. Moi, les gens, ils croyaient que j'étais vivant, mais moi, j'étais pas là. J'étais pas là pendant plusieurs heures. J'étais pas là. Je me suis mis à genoux dans une église, sentant la présence de Dieu. Je me suis réveillé à l'hôpital, 5 heures plus tard. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça s'appelle la nictus amnésie. Ils sont Dieu, il y a des mystères, ne cherchons pas tout à comprendre tout. Il y a des mystères, ils sont Dieu avec ces mystères. L'important, c'est que nous ayons cette confiance que Dieu est en contrôle de notre vie, que Dieu nous dirige. Encore une fois, je parle à des chrétiens, je ne parle pas comme ça, je ne parlerai pas comme ça à des médecins. J'ai une âme de martyr, mais enfin il y a des non mais c'est pour vous dire que c'est pas si simple les états modifiés de conscience. Puis vous avez des gens qui sont dans le coma, vous pensez qu'ils sont pas là du tout, en fait ils sont bien là. Oui. Donc on peut pas avoir des idées trop carrées sur la question. Il y a des bénéfices du doute, mais donc le Saint-Esprit, moi ce qui m'importe c'est que c'est le Saint-Esprit qui fasse le travail, parce que lui c'est ce qu'il fait. Moi j'ai confiance dans le Saint-Esprit. Il nous a été donné pour nous enseigner toutes choses, nous révéler toutes choses, nous conduire dans la vérité. Il ne va pas nous conduire dans les ténèbres. Justement, il va enlever les ténèbres, il va mettre de la lumière. Donc, moi, je permets au Saint-Esprit de le faire ça, mais à lui seul. Je ne veux pas que quelqu'un trifouille dans mon âme.
même s'il est pavé de bonnes intentions, je suis sûr que mes collègues sont pleins de bonnes intentions, mais moi je ne veux pas me permettre ça.
Donc, les révélations que nous avons par le Saint-Esprit nous sont données à nous-mêmes, mais elles peuvent aussi être données à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont des révélations sur les autres. Hein ? Mais c'est une révélation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller interroger la personne, de savoir son histoire, non. Dieu leur parle, on dit que telle personne a vécu telle expérience, ils vont lui dire, voilà, le Saint-Esprit ne dit que, et la personne dit, oui, c'est vrai, pour moi, elle se met à pleurer, on sait que c'est qu'il y a une conjonction de... les deux se reconnaissent, on sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est l'expérience qu'a fait le mendiant à la porte du Temple, hein. Donc, ils regardaient attentivement Pierre et Jean, ils s'attendaient à recevoir quelque chose, donc il a bien ouvert son canal. Hein ? Et Pierre et Jean, ils ont une révélation, ils voient que cet homme, il a la foi pour être guéri. C'était pas marqué ici, clignotant, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, ils ont une révélation. Ils lui disent, la fameuse phrase, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai dit, je donne au nom de Jésus de Nazareth, pour toi, marche. Alors, la prière des fils de Dieu, donc c'est pas de faire les courses chez Auchan avec une liste de pétitions, Carrefour, c'est pareil, hein. Mais c'est vraiment une écoute intérieure de ce que Dieu dit de moi, sur moi, de lui, des autres, et c'est pas de la méditation sur moi-même. Hein. C'est-à-dire que dans la méditation, je suis le centre de moi, de moi-même. Alors que dans la prière, je m'ouvre à Dieu pour écouter Dieu sur moi. C'est pas moi le centre de ce qui se passe. Et nous laissons Dieu nous sonder. Et c'est là qu'à mon avis, il faut interdire à toute personne d'autre que Dieu de sonder nos cœurs. Conclusion. Si un chirurgien fait une erreur et vous coupe le mauvais bras, les conséquences, c'est pour 90 ans au maximum, quoi. Mais si quelqu'un a fait une erreur dans votre âme, les conséquences sont éternelles. N'oubliez pas, votre âme, c'est votre éternité. Elle est éternelle. Soyez sauvé ou pas, votre âme est éternelle. Les esprits humains sont des grands manipulateurs. Partout, on l'a dit tout à l'heure, il y a des manipulateurs. Personne n'est parfaitement neutre dans une relation. Et le grand maître de la manipulation, c'est Satan. Donc attention, que celui qui écoute prenne garde à ces choses, la parole. Et je vous laisse lire la fin. Voilà, je crois que j'ai tenu les délais.
Alors après, j'ai plein d'autres choses à dire, mais ce n'est pas tellement plus important. Je crois que l'essentiel a été dit.